Bonjour et bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale. Cher Pierre Hiverna, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous retrouvera en fin d'émission à 12h25 pour la cerise sur le gâteau. Quelle cerise aujourd'hui ?
Les labels nutritionnels.
Ouf, ça nous fait rêver. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez la Madeleine de le souvenir gustatif d'une personnalité.
Aujourd'hui, on écoute Gérard Mordillat.
On écoute le romancier Gérard Mordillat à 12h15 et direction le Brésil aujourd'hui. On en parle beaucoup depuis l'élection du président Jair Bolsonaro qui a pris ses fonctions le 1er janvier dernier. Qu'on se rassure, ce n'est pas de son nouveau président que nous allons parler ce midi, mais de la cuisine brésilienne à l'occasion de la fête nationale la plus populaire du pays, un événement mondialement réputé, je vous le donne en mille, le carnaval de Rio, dont le cœur et l'esprit sont avant tout la musique à travers les écoles de samba. Pour parler du Brésil ce matin, ce midi même, nous avons un chef brésilien installé en France, Alexandre Furtado, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous tenez le bistrot Paradis à Paris. Nous avons un chef français installé au Brésil. On pourrait même dire que c'est le chef français le plus renommé au Brésil. Laurent Ciudo, fermez vos oreilles quand je dis ça. Bonjour monsieur. Vous êtes installé au Brésil depuis 1979, alors d'abord à Rio de Janeiro, puis à Sao Paulo. Et puis nous avons avec nous également en studio une journaliste brésilienne, Maria Emilia Alencar, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez la rédaction brésilienne à RFI. Alors puisque le point de départ de cette émission aujourd'hui, c'est la tenue du carnaval de Rio, je voudrais juste vous poser une première question à tous les trois. Est-ce que le carnaval de Rio s'accompagne de plats particulier ou de moments particuliers réservés à la cuisine? Maria Emilia Alencar.
Bah, écoutez, moi je dirais que ça accompagne de beaucoup de boissons.
Et pas seulement la caipirinha.
Beaucoup la caipirinha, la bière. Plat brésilien, je sais que les gens, au Brésil, il y a beaucoup de choses dans la rue. On peut manger des petites choses à la rue. Donc à Bahia, on aura des choses différentes. Mais bon, plat typique du carnaval, je ne vois pas.
Laurent Ciudo, vous qui avez longtemps vécu à Rio.
Ben, en général, comme vient de dire madame, c'est tout à fait dépendant de la région où on se trouve. Si on est sur Rio, par exemple, les gens aiment beaucoup faire le churrasque, la quarta fête des signes, c'est-à-dire le mercredi ou le mardi, je veux dire, après le carnaval. Mais ce qui se passe beaucoup, c'est beaucoup de boissons, et bien sûr. Et puis, comme on dit, des pétisques, c'est-à-dire que les gens grignotent, quoi, en fait. C'est pas s'asseoir pour manger, en fait.
Alexandre Furtado.
Oui, c'est bien ça. Ouais. Par contre, dans ma région, c'est un petit carnaval régional.
Votre région, c'est le Minas Gerais.
C'est Minas Gerais, c'est bien ça. Ouais. Nous, quand on part dans la rue pour fêter le carnaval, quand on a faim, on a la coxinha. C'est des petits beignets
des
qu'on
petits
se trouve
beignets,
partout,
ouais.
Un peu comme street food. Quoi.
Alors, Laurent Ciudo.
Ouais, c'est tout à fait ça. C'est, ce qu'il faut voir, c'est que pendant le carnaval, donc c'est les gens en dehors de la maison. Donc, ce qui marche beaucoup, surtout à Belo Horizonte, c'est cette culture de bouteille, comme on dit. Donc, et à Rio aussi très fort, où les gens se réunissent sur les terrasses. Et puis là, ben, c'est la bière, c'est beaucoup de choses à base de friture, souvent, bien sûr, exactement. Mais c'est toujours agréable à manger, il n'y a aucun problème.
Alors, en dehors maintenant de ce carnaval de Rio, vous disiez justement, Laurent Ciudo, ça dépend de là où on se trouve ou de la région où ouais. l'on est. Il se trouve que le Brésil, c'est un pays qui compte une des populations les plus diversifiées au monde, qui est le fruit de peuplements très divers, autochtones, puis de migrations à la fois européennes et africaines. Mmh. Est-ce que la cuisine est à l'image du pays, c'est-à-dire extrêmement variée, extrêmement métissée, Laurent Ciudo?
Ben, je crois que oui, exactement, de plus en plus. Elle l'a toujours été, mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a de jeunes chefs brésiliens talentueux, dont beaucoup ont quand même été formés par moi. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'ils ont compris que la cuisine passe avant tout pour mettre en valeur les produits de sa région. C'est ce que moi, quand on m'a envoyé au Brésil, j'avais ça dans le bagage. Je disais, c'était normal, c'était ma formation. Donc aujourd'hui, les jeunes chefs brésiliens l'ont compris là, très fort. Et vous avez justement dans chaque région, je dirais dans chaque grande ville ou petite ville même, à l'intérieur, par exemple en Minas Gerais, à Tiradentes, vous avez des jeunes chefs brésiliens qui mettent en valeur les produits régionaux. Et ça, c'est quand même un phénomène, je dirais, relativement récent. On parle de 15-20 ans, ce qui coïncide, si vous voulez, au moment où être cuisinier est devenu quand même honorable, je dirais. C'est-à-dire, être cuisinier, on n'a plus honte de le dire. Alors que quand je suis arrivé au Brésil, tout le monde se cachait pour dire qu'on était cuisinier.
Alexandre Furtado, vous avez ressenti ça? Vous qui avez oui. quitté votre pays pour aller en France?
Oui, non, mais je suis bien d'accord avec le monsieur. Et c'est vrai qu'il y a longtemps, c'était un peu compliqué de dire qu'on était que des cuisiniers. Quoi. C'était un peu honteux. Je suis désolé de dire ça.
Mais parce que le métier même de cuisinier au Brésil, ou parce que la cuisine brésilienne n'est pas considérée comme une très bonne cuisine, réputée au plan international, etc.
Non,
Alexandre Furtado.
Non, c'est pas ça. C'est juste que c'était vraiment le métier. La cuisine brésilienne, c'était toujours, pour moi, c'était une bonne cuisine, une cuisine frais, donc du produit frais, du produit local. Mais c'est juste par rapport au métier. Mais aujourd'hui, ça a tout changé par rapport au métier. Aujourd'hui, être cuisinier, c'est vraiment un honneur là, au Brésil maintenant.
Alors, on parlait des différentes régions. Maria Emilia Alencar, 26 États répartis en 5 régions, hein, je crois. Alors, en fait, c'est le nord, le nord-est, le sud, le sud-est, le centre et l'ouest. Quelles sont les spécificités régionales? Vous les connaissez, vous?
Oui, je connais un peu. Bon, Minas, on a parlé. Moi, je pense que la feijoada, l'haricot noir avec du porc, on mange un peu partout.
Alors, la feijoada, il faut s'arrêter un tout petit peu parce que c'est quand même le plat quasi national. C'est le plat le plus populaire. On va demander à Alexandre Furtado de nous en parler de la feijoada.
Voilà, c'est le plat du dimanche, en fait.
Il est fait de quoi, Alexandre Furtado?
En fait, la feijoada au Brésil, elle est... Ça dépend de la région. Dans la région à Minas Gerais, la feijoada de Minas Gerais, elle est composée de haricots noirs, de la poitrine fumée, des saucisses, de la banane, de la farofa.
La farofa, c'est la farine de manioc?
C'est bien ça. La farine de manioc, c'est la farofa. Et aussi du chou vert.
Un chou vert très spécial qui s'appelle couve.
C'est bien.
Un petit peu amer.
Qu'on trouve dans le Minas Gerais, mais qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Justement, la feijoada, qui est aussi mangée à Rio de Janeiro et à Sao Paulo, elle n'est pas cuisinée exactement de la même façon que dans le Minas Gerais, Maria Emilia Alenca.
Oui, à Minas Gerais, il y a aussi les tutus, non? C'est un peu le tutu, c'est un peu le feijão, l'haricot un peu un purée.
Oui, on peut faire ça, mais... Bon, à Uberlândia, c'est ma région où je suis né, et là, on fait juste les ingrédients que je viens de le dire. C'est la farine de manioca, la banane panée, c'est la banane frite, la banane plantain. Et voilà, et on laisse mijoter comme le cassoulet français, quoi.
Bon, alors ça veut dire, c'est pour ça, oui, Maria, mais.
Juste, non, je parlais de la feijoada juste pour vous dire que c'est concentré, les trois éléments très important de la cuisine brésilienne.
Les ingrédients de base.
Ça veut dire le portugais avec la couve, l'européen, enfin, les indiens avec la farine de manioc, et l'africain, je pense, avec haricots noirs et tout ça. Enfin, je crois que ça réunit un peu les trois racines, mais il y a d'autres.
Les trois tendances, et d'ailleurs les trois ingrédients, les trois produits de base que l'on trouve. Alors, on a parlé du Minas Gerais. Au nord-est, alors je vais m'adresser à vous, Laurent Ciodio, on parle quand même de la moqueca. La moqueca des poissons, et Alexandre Furtado l'a fait aussi, à sa façon, à Paris. Hein, mais...
Quand on parle de la feijoada, moi, quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai que c'était, si vous voulez, le plat emblématique, on va dire comme cela. Mais quand on commence à connaître un peu plus profondément le pays, on s'aperçoit que chaque région a quand même un plat jalousement protégé, je dirais comme cela. C'est-à-dire qu'il y a, surtout par exemple, quand on va dans le Pernambouc, l'État de Pernambouc, qui pour moi est un exemple typique, il faut bien comprendre aussi qu'il y a des États où une certaine classe sociale ne voulait pas non plus mettre... quand on recevait des gens, des plats tout à fait typiques. Ils voulaient partir sur des choses un peu plus européennes, je dirais comme cela. Alors que quand on va, par exemple, dans l'État de Pernambouc, qui m'est très cher, moi j'aime beaucoup, même pour son carnaval d'ailleurs, les gens, même très aisés, veulent montrer la cuisine tout à fait pernambucaine. Quand on sait quand même que l'État de Pernambouc était un des États où il y a eu les premières pénétrations, si vous voulez, les arrivées des colons européens, d'Espagne, enfin les gens qui fuyaient l'Inquisition. Donc on retrouve des choses très intéressantes sur de la cuisine d'origine juive, de la cuisine arabe. Moi, je défends fortement, disais toujours, le Brésil a une cuisine régionale très forte, et que ceux qui sont en train de la mettre en valeur en ce moment sur le plan international et en traversant les frontières, ce sont quand même tous ces jeunes chefs brésiliens qui aujourd'hui sont là et qui sortent un peu, si vous voulez, de ce côté cliché de la feijoada pour dire nous avons autre chose que de la feijoada, même si la feijoada c'est magnifique.
Alors évidemment,
et ça c'est très important, ça c'est très important.
Nous avons autour de la table justement un cuisinier brésilien qui est sorti de son pays et qui fait une cuisine qui est un mélange entre la cuisine française et la cuisine brésilienne. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Laurent Suedio sur les spécificités régionales? Chaque région a vraiment son plat. La feijoada, c'est la feijoada, et le pão de queijo, qui est l'autre plat national, on va dire quasi national, c'est-à-dire le pain au fromage, c'est le pão de queijo, mais on fait beaucoup de choses différentes aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai que il a tout à fait raison que au Brésil, chaque région a sa spécialité. Et c'est vrai que à Minas Gerais, par exemple, il y a le pão de queijo.
C'est une institution, le pão
de fromage. Oui, le pão de queijo. On parlait de Minas Gerais, d'abord vient le pão de queijo, après les mineiros.
Et si je vous dis sucré, alors, Maria Emilia Alenka, vous dites quoi?
Sucré, moi je dirais des choses avec la mangue, par exemple les mousses de mangue, la guayave, les fruits tropicaux. Et bon, j'ai des souvenirs incroyables, des guayaves, un sirop que mon grand-père me faisait avec les clous de girofle, par exemple. C'est des choses d'un temps, mais je vois plutôt ça que les brigadeiros qui je trouve un petit peu sucrés. Peut-être si je deviens un peu française, ça fait longtemps que je suis là.
Ah, on va y venir d'ailleurs, à ces croisements entre les deux cuisines et entre les deux cultures brésiliennes et françaises, puisque nous avons la chance d'avoir un chef français installé au Brésil et un chef brésilien installé en France. Mais on va laisser passer la madeleine, puisque vous nous avez permis de l'entendre, votre petite madeleine à vous, Maria Emilia Alencar. On va laisser passer la madeleine. On vous retrouve juste après. Alors, c'est l'heure de la madeleine, donc, avec vous, Natacha Triou. Alors, je ne sais pas s'il existe des tartelettes au Brésil, mais en tout cas, vous en avez trouvé en France.
Oui, j'en ai trouvé dans le récit de Gérard Mordillat pour sa madeleine. Voilà, Gérard Mordillat a plusieurs visages. Il est romancier, poète et cinéaste. Ancien camarade de route du PCF, l'auteur aime les révoltés, les rebelles et les révolutionnaires. Il a notamment écrit et réalisé « Vive la sociale » en 1980-84. Et il a publié récemment aux éditions Albin Michel « Ces femmes-là », un roman sur le pouvoir de l'action collective. Pour sa Madeleine 2, donc, avec beaucoup de mordant, Gérard Mordillat nous raconte le dessert préféré de son enfance.
Mon souvenir gustatif le plus fort, c'est de la tarte aux cerises, de la tartelette aux cerises pour être précis, qui se vendait en bas de chez mes parents, au coin de la rue Orfila, une boulangerie dont le nom m'est cher, puisque c'était la boulangerie Marx. Et ils vendaient là des tartelettes aux cerises, et la tartelette c'était magnifique, parce que on peut la manger de différentes façons. Soit d'abord, on peut manger toutes les cerises, puis ensuite lécher la crème pâtissière et finir par le biscuit. Mais on peut aussi attaquer à belles dents dans la cerise et manger dans un même élan, si je puis dire, la cerise, la crème pâtissière et le biscuit. Et on peut varier, on peut manger de temps en temps les cerises, un peu de crème pâtissière, un peu de biscuit. Donc c'est quelque chose d'abord de très beau, d'abord des tartelettes rondes, très généreusement garnies de cerises, qui venait d'où, ça je n'en sais rien, qui avait un rouge absolument inoubliable, et puis la crème pâtissière était spécialement goûteuse, délicieuse, tout. Et c'est vrai que quand je pense à quelque chose de bon, je pense toujours à ces cerises et à cette crème pâtissière que je léchais avec délice. Ça a la forme de la cerise, ça ressemble à une cerise, et ça a un goût un peu étrange, sans doute un peu chimique, mais délicieux. La tarte aux cerises, Je la dégustais généralement le midi après déjeuner. Ma mère m'en achetait, voilà. Parce que ma mère commençait à travailler à 14h, travaillait jusqu'à 22h. Donc j'ai évité toute ma vie de manger à la cantine. J'ai toujours très bien mangé chez moi. Et de temps en temps, pas tous les jours bien entendu, ma mère m'achetait une de ces fameuses tartelettes aux cerises. Et donc c'était un régal supplémentaire, puisqu'il y avait là l'exception. C'était aussi quelque chose de tout à fait doux parce que c'est un dessert qui dure. Ça ne se mangeait pas vite. Et parce qu'évidemment, il fallait déguster chaque moment. Donc ça prenait le temps et c'était une façon absolument délicieuse de terminer un repas. Et là, je n'ai jamais retrouvé de tartelette aux cerises comme celle que j'ai mangée dans mon enfance. La tartelette aux cerises rouge de chez Marx s'est perdue. Donc c'est ça qui est formidable aussi, c'est que c'est une tarte du souvenir.
On se quittait sur ces croisements entre la cuisine française et la cuisine brésilienne. Précisément, venons-en à ces croisements entre les deux cuisines. Avec vous, par exemple, Alexandre Furtado, puisque vous faites une cuisine dans votre bistrot Paradis, à Paris, dans le 10e arrondissement. Vous faites une cuisine, alors je ne sais pas comment l'appeler, franco-brésilienne. Enfin, qu'est-ce que votre cuisine a de brésilien? Alors, posons la question comme ça.
Voilà, ouais. J'ai fait une cuisine, on peut dire, française. Avec l'assaisonnement brésilien, voilà, parce que les produits brésiliens ici en France, c'est pas facile de trouver des produits frais.
On peut trouver des baies d'açaï, par exemple.
Oui, des baies d'açaï. Oui, on peut trouver des baies d'açaï. Mais... c'est pas facile, c'est un peu compliqué, mais on peut trouver le gombo, c'est le quiabo.
Alors le gombo, c'est une sorte de petit légume vert allongé, assez court. Hein,
c'est bien ça.
Qui a un goût très... Je suis incapable de décrire ce goût, vous êtes capable de le
décrire? Oui, mais le gombo, il y a, c'est un goût spécial.
Spécial, ouais, exactement. C'est un goût spécial, comme dit Alexandre Furtado. Et vous faites un cabillaud façon moqueca. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi d'ailleurs la moqueca? On n'en a pas parlé, je disais qu'on en parlait.
Voilà, j'ai fait un cabillaud façon moqueca. Ouais. J'ai pris un plat brésilien du nord du Brésil. Et je l'ai revisité à la française. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de tout mijoter ensemble, j'essayais de séparer chaque ingrédient et d'essayer de montrer les gens que la personne qui mange ma moqueca revisitée, qu'il peut trouver le Brésil et avec la technique française. Voilà. Le geste français avec la saison brésilienne.
Vous faites aussi des frites de manioc?
Ouais, j'ai fait les frites de manioc aussi. Ouais. En fait, la frite de manioc, j'ai revisité un petit peu aussi, parce que d'habitude au Brésil, on frit dans une huile végétale. Et ici, ma frite de manioc, j'ai frit dans le lard colonata. Je mélange un petit peu des pays.
Laurent Ciudo, est-ce que les deux cuisines, les deux cultures se marient bien pour vous?
Oh ben, tout à fait, oui. Déjà, il faut savoir que quand même le Brésilien en général adore une cuisine bien assaisonnée. Ça, c'est important.
Vous approuvez ici en plateau, là, Marie-Emilia Ankar?
Oui, je suis d'accord.
Moi, j'aime bien les piments à côté.
Après, c'est chacun ses goûts, hein, mais Laurent Ciudo, pardon.
Et si vous voulez, moi, quand je suis arrivé au Brésil et que M. Bocuse m'a dit...
c'est Paul Bocuse qui vous a envoyé, oui.
Tu as la liberté de faire le travail que à partir du moment que ce soit bon. Bon, il est évident que la première chose que j'ai fait, c'était aller sur le marché. À l'époque, c'était à Rio, donc à Botafogo. Et quand j'ai vu ces produits merveilleux, on a commencé à introduire en 1981 des chouchous, du cajou, enfin des choses-là. Et même du tucupi, parce que les propriétaires de l'hôtel avaient des fazendas au Pará. Donc, ils m'avaient amené du tucupi.
Du tucupi, c'est le jus extrait des feuilles de manioc, hein?
Tout à fait. Et moi,
je traduis pour les Français qui connaissent pas le Brésil, quand même, Laurent Ciudo.
Oui, et j'ai commencé à mettre ça sur ma carte à l'époque. C'était quand même curieux parce que, si vous voulez, la clientèle que nous avions à l'époque au restaurant Saint-Honoré, au dernier étage de l'hôtel Méridien qui n'existe plus, signé par Monsieur Paul Bocuse, les clients qui venaient ne comprenaient pas tout à fait ce que je voulais faire là, à ce moment-là. Parce que quand je mettais ces produits-là sur les plats, là, ils disaient, mais il est un peu fou, ce gars-là. Je me souviens même un client qui m'avait dit, mais ça, c'est de la cuisine pour indigènes. Ça m'avait choqué, vraiment. Ça, j'avais rien compris. Et alors que ce sont deux cuisines, si on sait implanter Moi, ce que je défends toujours en disant la méthodologie française, qui est quand même importante, c'est la méthodologie de réflexion. Hein, il faut quand même savoir que les grandes cuisines de culture occidentale, qu'on le veuille ou non, beaucoup de grands chefs ont travaillé ou ont appris dans des cuisines françaises. C'est pas faire de la cuisine française, c'est apprendre les techniques, les méthodologies de travail. Et ça, si c'est ensuite adapté sur des produits locaux, on peut construire à partir de ce moment-là une cuisine beaucoup plus sophistiquée, allégée, qu'on a pu rencontrer il y a 40 ou 50 ans derrière.
Maria Amélia Alanka.
Oui, moi je trouve que le chef brésilien, ce que j'entends, ce que je vois, c'est que les Brésiliens tout court, ils sont en train de faire un mouvement de récupérer leur culture indienne, africaine, européenne était déjà là, c'était la culture du pouvoir, de l'élite. Mais là, je trouve que ça se sent dans la cuisine. Donc, comme Monsieur Suedo a dit, je vois beaucoup de gens maintenant proposer du tucupi, les tacacá, les plats du nord du Brésil qu'on connaissait très peu au sud-est. Et je vois qu'ils valorisent avec d'autres ingrédients et une fusion assez intéressante. Et ça vient avec un mouvement de chercher leurs racines, en fait, je trouve.
Alexandre Furtado.
Ouais, moi aussi, c'est très important. Et aujourd'hui, on peut être très fier de notre cuisinier brésilien parce que, d'une certaine note, on a réussi à ruminer de nouveau une autre vie à les produits qu'on avait oubliés. Qu'on cuisinait le jour à jour comme ça, juste, je suis désolé l'expression, juste j'étais dans la casserole, on laissait mijoter et c'était bon. Non. Aujourd'hui, les gens ils cherchent à être ponctueux et trouver vraiment l'intérêt du produit, pourquoi il est là dans l'assiette. Et c'est ça la cuisine de cœur, la passion du cuisinier.
Et vous disiez d'ailleurs que vous aviez, Alexandre Furtado, maintenant vous aviez la fierté d'être cuisinier et que ça n'a pas toujours été le cas. Le métier de cuisinier au Brésil n'était pas nécessairement reconnu. Il se trouve, Laurent Chiodio, que vous faites partie vous contribuez à la formation des cuisiniers de demain, parce que vous avez ouvert une école de cuisine et que vous, d'ailleurs, ce n'est pas la seule. Il y en a plusieurs, hein, des écoles de cuisine. Alors, Ducasse, le Cordon Bleu ont ouvert des écoles de cuisine au Brésil. Vous êtes responsable d'une école de cuisine à Sao Paulo. Et on a vu, par exemple, la première femme brésilienne de 24 ans, finaliste du Bocuse d'Or en 2017, Giovanna Gossi. Elle est où, la grande cuisine brésilienne de demain, Laurent Chiodo?
Elle est justement, si vous voulez, dans ce procédé d'une démocratisation de la cuisine dans la culture et dans la société brésilienne comme un tout. Je crois que c'est important. À partir du moment que la société brésilienne est ouverte à goûter tous ces produits qui sont de son histoire, de son origine, et on a quand même une participation énorme, ça je le défends toujours. Il faut rappeler par exemple la mission française de Monsieur Debré, un grand peintre et scientifique envoyé par le gouvernement français, enfin Napoléon en 1825, où il fait l'éloge de la farine de manioc. Donc tout cela, aujourd'hui, les gens l'acceptent, que ce soit dans les petits bistrots du coin ou que ce soit dans des grands restaurants. Donc à partir du moment qu'on a cette démocratisation de la cuisine qui assimile donc sa culture dans sa cuisine et qui en est fière, il est évident que on a déjà des grands professionnels sur le marché et on aura de plus en plus de grands professionnels qui alimenteront le marché brésilien et même l'international.
Et même l'international. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Laurent Chiodio, merci beaucoup Maria Emilia Alencar et merci à vous Alexandre Furtado. Il nous reste à aller goûter tout cela, même si on n'en trouve pas beaucoup des ingrédients ici en France, l'avez-vous dit. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci. Merci.
Et on termine avec vous, cher Pierre Hivernat, et avec votre chronique La cerise sur le gâteau. Alors, changement radical de sujet, de destination, retour en France, à Paris, au Salon de l'agriculture.
Effectivement, Caroline, je voulais vous parler de la jungle des labels de qualité nutritionnelle qui visiblement préoccupe grandement producteurs et distributeurs et qui font devenir chèvre le consommateur. Il faut dire que cette semaine, le consommateur a de fait touché le fond de la confusion puisque c'est au salon que Mickey et Rémi, le jeune rat de Ratatouille, ont annoncé leur arrivée dans les rayons affublés du label nutritionnel Disney Cuisine. Sur fond de quelle couleur le logo qui va avec ? Et oui, vous l'avez deviné, vert. Vert comme bon pour l'environnement, vert comme une pomme verte fraîchement cueillie, mais surtout vert comme la nature qui transparaît immédiatement à la vue des produits Kellogg's, les stars de la marque Disney, qui vont être l'un des ambassadeurs de ce nouveau label. En revanche, vert comme un feu vert de Nutri-Score, ça risque fort heureusement de coincer un peu. Car voici un label qui est, lui, un indicateur officiel, instauré en 2016 dans le cadre de la loi de la modernisation du système de santé. Il a pour objectif de favoriser un choix de produits plus sains pour le consommateur avec dans son collimateur médical obésité et diabète. Les produits se déclinent ainsi du A vert au E rouge cramoisi, des plus sains aux plus redoutables pour la santé. Alors bien sûr, le Nutri-Score n'est pas parfait non plus car il ne tient pas compte de la présence des additifs, colorants, conservateurs et édulcorants. Mais disons que c'est un bon début et qu'il fallait bien commencer par un bout. Et puis Caroline, vous vous souvenez peut-être que le chef Frédéric Simonin nous avait dit qu'il ne travaillait qu'avec les produits bleu, blanc, cœur. Bonne initiative, car ce label est également reconnu par les ministères de la Santé, mais aussi de l'Agriculture, comme démarche d'intérêt général. L'association qui le porte défend notamment un engagement clair, labelliser ceux qui améliorent la teneur nutritionnelle en oméga 3 de leur alimentation animale, et donc, à en croire les scientifiques, par ingestion, la nôtre.
Et quid alors de critères comme le bien-être animal ou la traçabilité qui préoccupent tout autant les consommateurs?
Eh bien là, Caroline, il nous faut saluer une initiative remarquable qui porte le nom de Ferme France. Alors attention, à Ferme France, on ne parle pas de label, mais d'une étiquette de notation sociétale. L'association qui travaille sur ce projet depuis déjà un an a d'abord distingué 6 piliers. Bien-être animal et conditions de travail, environnement, nutrition et santé humaine, équité et contribution à l'économie française, traçabilité et intérêt général. Et pour chaque pilier, plusieurs objectifs. Par exemple, environnement comprend 9 objectifs, dont l'impact sur le réchauffement climatique. Et avec la combinaison de tous ces critères pondérés, elle va générer pour chaque produit une note sur 100. Aujourd'hui, l'association a réussi à convaincre plus de 30 adhérents, dont 70% des distributeurs français, à venir réfléchir avec elle. Mais elle considère que la réflexion des professionnels pourrait être entachée de parti pris, raison pour laquelle elle a lancé une consultation citoyenne. Alors, fermefrance.org ou disneyland.com?
Merci Pierre Hiverna pour votre chronique. Votre chronique est à retrouver, réécouter et télécharger sur le site des bonnes choses sur franceculture.fr et sur le site Alimentation Générale. Les bonnes choses se poursuivent en réécouter en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis, Rafik Zénine et notre technicien du jour, Anthony Thomasson, vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Culture et dans un instant, ce sera le journal.